Radio Kapi.
Oh, Kapi. Le journal présenté par Patience Ngalula Mbombo. À la une de cette édition d'information, début ce jeudi du procès contre Corneille Nangaa et consorts à la cour militaire de Gombe, poursuivi pour trahison et participation au mouvement insurrectionnel, deux de cinq prévenus plaident coupables. Les enseignants de Kungu dans le sud Ubangi réclament l'amélioration de leurs conditions socio-professionnelles. Ils sollicitent de l'État la mécanisation de plus de 15 000 agents mis en service mais non payés depuis plusieurs années et la majoration de leurs salaires. L'invité de ce journal est le directeur des missions internationales d'observation électorale au Centre Carter, Nicolas Tendas, revient sur les conclusions du rapport final du Centre Carter sur les élections organisées en 2023 en RDC. D'abord cette information, le Bureau du contrôle des actifs étrangers, OFAC, du département du Trésor des États-Unis impose des sanctions à l'Alliance Fleuve Congo. Ceci ressort d'un communiqué de presse publié hier jeudi par l'ambassade des États-Unis en RDC. L'OFAC vise également des personnes et des entités associées à l'AFC, notamment Bertrand Bissimwa, le président du M23, Twirwa Neo, un groupe armé affilié à l'AFC dans la province du Sud Kivu, et Charles Sematama, un commandant et chef militaire adjoint des Twirwa Neo. En conséquence, tous les biens et intérêts dont les biens des personnes désignées ci-dessus qui se trouvent aux États-Unis ou en possession ou sous le contrôle des personnes des États-Unis sont bloqués et doivent être signalés à l'OFAC. Entre-temps, au procès de Corneille Nangaa et consorts, deux de cinq prévenus plaident coupables. Ils affirment avoir créé l'Alliance Fleuve Congo pour conquérir les pouvoirs par tous les moyens possibles, car rien ne marche dans les pays. Ils l'ont ouvertement déclaré au cours de l'audience publique dès ce jeudi devant la cour militaire de Kinshasa Gombe. Celle-ci a débuté l'instruction de prévention des trahisons et participation au mouvement insurrectionnel dont ils sont accusés. Reportage Jeff Ngoy.
Eric Nkumba et Kamja Shamachabo affirment être cofondateurs de l'AFC, créé en se basant sur l'article 64 de la Constitution qui stipule que tout Congolais a le devoir de faire échec à tout individu qui prend le pouvoir par la force et l'exerce en violation des dispositions constitutionnelles. Nous avons créé l'AFC pour donner de la valeur aux Congolais, dépose Eric. Par quel moyen est-ce que la Constitution l'autorise? Demande la Cour aux prévenus. Kamja répond que tous les moyens étaient bons pour eux. Est-ce que tous les détournements des deniers publics auxquels on assiste dans le pays, la Constitution les autorise, s'interroge-t-il. Luc Safari fait l'étalage de plusieurs révélations et en réserve d'autres pour les couloirs, évitant selon lui d'embraser le pays déjà en danger. Il affirme avoir pris des armes pour défendre l'intégrité du pays menacé par le Rwanda. Je suis un patriote qui savait tendre des embuscades aux rebelles du M23 et capturer quelques-uns à Busanza et Binza. Quant à Jean Rutin Sébastien Nenanga, il avoue avoir été arrêté parce qu'il porte le même nom que Corneille Nangaa, son neveu. Il ignore tout de l'AFC et met au défi le ministère public de lui prouver le contraire. Les interrogatoires vont se poursuivre ce vendredi.
À Beni, ouverture ce jeudi d'un atelier de 3 jours sur les défis sécuritaires dans le Grand Nord Kivu. Il s'agit d'une campagne de sensibilisation organisée par les programmes démobilisation, désarmement, réinsertion communautaire, PDD-RCS avec l'appui de la MONUSCO. Y participent notamment les autorités politico-administratives et sécuritaires de la région, les leaders des groupes armés, les leaders communautaires et religieux, les associations de jeunes. L'objectif est de diagnostiquer les problèmes sécuritaires de la région afin d'envisager des pistes de solutions. Nord Kivu toujours, à Goma, les bâtiments abritant la coordination provinciale de la protection civile du Nord Kivu est désormais dédié à Joseph Makundi. L'annonce a été faite ce jeudi par le gouverneur militaire et le chef des bureaux de la MONUSCO à l'issue d'une visite officielle conjointe au dit bureau. Selon les deux personnalités, c'est pour honorer la mémoire de cet acteur qui a dirigé la protection civile au Nord Kivu pendant 10 ans. Celui-ci est mort asphyxié en février 2023 alors qu'il tentait d'extraire les corps d'un déplacé piégé dans un trou rempli de gaz carbonique au Mazuku, au quartier Lac Vert, suivant successivement les général-major Peter Chirimwami et Omar Abdou dans ses propos recueillis par Bernardin Nyangui.
Vous connaissez les circonstances dans lesquelles il nous a laissés. Il est mort par le mazouk. Il était en train de sauver la vie des civils. C'est pourquoi on lui a dédié ces bâtiments. Mais je voulais dire qu'à l'occasion, nous allons remercier nos partenaires, la MONUSCO, pour avoir fourni des efforts de nous construire ces bureaux. C'est au bénéfice de la population, qui est dans les mandats en fait, de la MONUSCO, la protection civile. Vous savez que la MONUSCO est en train de partir, et donc ils veulent nous laisser les ouvrages. Ils vont poursuivre leur mission ici en RDC.
Nous sommes ici pour le mandat clé qui est protection des civils, même qu'on a déjà fermé notre bureau à Bukavu, au sud Kivu. Nous sommes toujours là, on va continuer à exécuter notre mandat jusqu'à le dernier jour avant notre départ. En mémoire de notre frère, notre partenaire Joseph, avec qui on a travaillé beaucoup, surtout pendant la crise de Volcan, je voudrais dire que nous lui promettons qu'on continuera la bataille pour protection civile, que son âme repose en paix.
Rappelons que les bureaux de la coordination provinciale de la protection civile construit et équipé sur financement de la MONUSCO a été inauguré le 31 mai dernier au quartier Les Volcans. La littérature financière de la RDC s'enrichit des trois nouveaux ouvrages présentés officiellement au public ce jeudi à Kinshasa. Des livres tous publiés par les inspecteurs de l'Inspection générale des finances et présentés à l'occasion de la deuxième journée scientifique de cette institution de contrôle financier de la RDC. Un de ces trois ouvrages dénonce notamment les inégalités et la pauvreté en RDC, mais propose également des solutions pour y remédier. Plus de détails sur ces trois nouvelles publications de la RDC. Avec Donna Madimba.
Rédigé par l'inspecteur général des finances Bita Simoa sur base d'une enquête faite pendant plusieurs années dans toute la République démocratique du Congo, cet ouvrage établit qu'en RDC, il y a des inégalités excessives d'avoir entre populations. D'un côté, les très riches qui se recrutent parmi un tout petit nombre de Congolais généralement, des citadins et la classe politique. Ces très riches Congolais sont, selon le livre de l'inspecteur général Bita Simoa, 11 fois plus riches que les pauvres. Les pauvres en RDC sont, eux, selon le même ouvrage, plus dans les provinces du pays. Beaucoup plus les femmes, les jeunes et les plus de 50 ans. Les raisons seraient la cupidité individuelle, mais également d'autres causes comme l'impôt mal organisé et certaines subventions de l'État qui lui privent de certains revenus qui pourraient servir à d'autres intérêts plus généraux, comme les routes et les infrastructures. Cette enquête établit enfin, selon l'IGF Bita Simoa, que la RDC à ce jour est le quatrième pays au monde le plus pauvre, les trois premiers étant le Sud-Soudan, le Burundi et la République centrafricaine.
Direction la province du Sud Ubangi, à Kungu, où les enseignants montent au créneau pour réclamer l'amélioration de leurs conditions socio-professionnelles, notamment la mécanisation de plus de 15 000 agents mis en service mais non payés depuis plusieurs années, y compris la majoration de leurs salaires. Ils l'ont dit à l'issue de la réunion ce jeudi 25 juillet du comité intersyndical territorial de l'éducation nationale et nouvelle citoyenneté du territoire de Kungu. Les participants dénoncent ainsi les non-respects des différents accords signés entre les banques syndicales et les gouvernements. Voici un extrait de leur déclaration lu par le président du comité intersyndical des enseignants de Kungu, Emmanuel Bamolokola, au micro de Paul Richard Malengela.
Eu égard à ce tableau sombre, le comité intersyndical territorial exige ce qui suit. 1. La mécanisation des enseignants, nouvelles unités de maternelle, primaire, secondaire et de bureaux gestionnaires qui s'élèvent à plus de 15 476 enseignants dans les 9 sous-divisions, car il est inconcevable pour un gouvernement de faire travailler les enseignants pendant autant d'années sans salaire. 2. La délocalisation de la paie des enseignants de l'effort de Caritas Boudjala, occasionnant les retards cumulés de la paie des enseignants de Sidoubangui vers la banque de notre choix. 3. Que le nouveau cahier des charges des enseignants soit accepté et intégré dans la conférence budgétaire du mois de septembre, accordant à l'enseignant les moins gradés les salaires en francs congolais l'équivalent de $500 américains. 4. Enfin, doter les enseignants d'un statut particulier, les reconnaissant au même titre que les agents de la fonction publique. Faute de ce faire, la rentrée scolaire du 2 septembre prochain restera hypothétique, car aucun enseignant de Kungu n'acceptera plus d'endurer la souffrance et la misère pour ce deuxième mandat du chef de l'État.
Du Sud-Ubangi, rendons-nous dans la province du Maniema, où l'Assemblée provinciale appelle le gouvernement provincial à se mettre au travail pour arriver à relever les défis auxquels fait face la province du Maniema. Dans son discours d'ouverture de la session extraordinaire de juillet, le président de l'organe délibérant fait savoir qu'à ces jours, point n'est besoin d'entendre des discours de campagne. La population a besoin des actions concrètes et à impact visible axées sur les résultats. On écoute le président de l'Assemblée provinciale du Maniema, Makonga Toboka Iki Claude, au micro de Florence Kizalunga.
La province du Maniema traverse à ce jour plusieurs difficultés dues soit au manque, soit au délabrement, soit à l'insuffisance des infrastructures routières, scolaires, sanitaires, économiques, sociales, etc., etc. Un bon programme de gouvernement est celui qui tient compte des aspirations profondes d'un peuple et qui est exécuté suivant les priorités de ces derniers. Actuellement, le Maniema est totalement enclavé. Le gouvernement provincial devra faire de la construction ou de la réhabilitation des routes une priorité des priorités. Il est temps de noter que la question des routes constitue le premier critère d'évaluation de l'action du gouvernement provincial. Le défi majeur auquel le Maniema est confronté, c'est l'incapacité de mobiliser les recettes. Il est plus que temps de rendre la direction générale des recettes du Maniema plus performante afin d'éviter de tomber dans l'attentisme du gouvernement central.
C'est ce vendredi 26 juillet que démarrent à Paris en France les 33e Jeux Olympiques, un rendez-vous sportif auquel une centaine de chefs d'État du monde, dont une douzaine du continent africain, vont prendre part. Dans l'esprit de la trêve olympique, le secrétaire général des Nations Unies appelle tout le monde à déposer les armes et à tendre vers l'objectif ultime, la paix pour tous. Jean Gandou.
Les Jeux Olympiques mobilisent plus de 10 000 athlètes masculins et féminins venus des quatre coins du monde. Pendant 2 semaines, ils vont rivaliser de talent et se produiront dans 329 épreuves pour 47 disciplines et 32 sports qui se dérouleront dans 39 sites. Pour la circonstance, plus de 5 000 médailles sont disponibilisées, dont l'or, l'argent et le bronze. D'après plusieurs médias français, la cérémonie d'ouverture se fera en présence d'une centaine de chefs d'État et de gouvernement, dont une dizaine venant de l'Afrique. Cette réception sera l'occasion pour la France de délivrer un message de paix et de tolérance, affirme la même source. Pour ces Olympiades, le secrétaire général des Nations Unies a écrit, je cite, « Le monde s'est réuni à Paris pour célébrer le pouvoir du sport, pour apporter de l'espoir, pour transcender les cultures, unir les peuples, promouvoir le respect mutuel et le fair play. Ce sont également les idéaux des Nations Unies. Dans l'espoir de la trêve olympique, j'appelle tout le monde à déposer les armes, à bâtir des ponts, à encourager la solidarité et à tendre vers l'objectif ultime, la paix pour tous. Je souhaite donc plein succès aux athlètes olympiques et paralympiques. Vous nous inspirez à rêver plus grand. Puisse l'âme olympique éclairer le chemin vers un monde de paix et d'harmonie. » Fin de citation. Lubumbashi, Jean Gandou, Radio Kapi.
Actualité internationale.
Au Niger, cela fait tout juste un an, ce vendredi 26 juillet, que la junte militaire du Conseil national pour la sauvegarde de la patrie, CNSP, a pris le pouvoir au Niger avec un coup d'état militaire qui a renversé le président Mohamed Bazoum. Le général Abdourahamane Tiani, président du CNSP, a prononcé un discours jeudi soir à cette occasion sur la télévision d'État RTN. Aucune annonce, mais une rétrospective en forme de satisfaction.
L'invité.
La RDC a été en capacité de tenir les délais constitutionnels. Ces propos sont de Nicolas Teindas, directeur des missions internationales d'observation électorale au Centre Carter. C'est l'une des conclusions du rapport final du Centre Carter sur les élections organisées en 2023 en République démocratique du Congo. Nicolas Teindas revient sur ces rapports dans cet entretien avec Étienne Lissoumbou.
Bonjour, monsieur Nicolas Teindas.
Bonjour.
Vous avez publié les rapports finaux du cycle électoral 2023. Aujourd'hui, quelles sont les grandes lignes qui se dégagent de ces rapports?
Parmi ces conclusions, on retient que la République démocratique du Congo a été en capacité de tenir les délais constitutionnels, mais que il y a eu un calendrier électoral qui a été très comprimé. Et ceci a eu un impact sur la qualité et sur la transparence du processus, c'est-à-dire que par exemple le fichier électoral a été constitué dans des délais extrêmement courts, l'audit du fichier n'a pas pu se faire dans des conditions optimales, la sensibilisation n'a pas été non plus optimale, il y a eu, comme vous savez, des problèmes avec l'impression des cartes d'électeurs, donc il y a quand même eu des problèmes importants qui ont pu avoir un impact sur la transparence, et je pense aussi processus post-électoral, hein, par exemple pour la transmission des résultats où la loi n'a pas toujours été respecté dans cette transmission des résultats. Putain. Et puis, dernière conclusion peut-être sur la question du traitement des contentieux. On peut noter que la Cour constitutionnelle et les juridictions en général ont traité les contentieux dans les délais pour la première fois, ce qui est un élément positif, mais que la manière dont les décisions ont été rendues n'ont pas forcément été effectuées en fournissant tous les soubassements pour justifier les décisions rendues.
Quelles sont les difficultés que vous avez rencontrées au cours de votre mission d'observation ?
Je pense que les difficultés rencontrées tiennent à ce que j'ai dit précédemment, c'est-à-dire le fait pour nous, lorsque l'on émet des critiques par rapport à un processus électoral et lorsqu'il y a des déviations par rapport à un certain nombre d'engagements clés, il faut qu'on soit en mesure de justifier, d'étayer, d'argumenter les éléments sur lesquels on apporte un regard plus critique. Et donc, je pense qu'une des principales, on va pas dire difficultés, mais oui, c'est de faire en sorte d'avoir les informations, de recouper les informations avec les différents acteurs, avec les CENI, pour que ce que l'on produit dans notre rapport puisse être considéré comme le plus juste et reflétant le mieux possible la réalité.
Y a-t-il des éléments positifs que vous avez relevés au cours de cette mission?
Alors bien sûr, il y a des éléments positifs. Je pense tout d'abord, on a eu une très bonne collaboration avec la commission électorale qui a été en mesure de fournir dans les délais toutes les accréditations que l'on avait sollicitées. Bonne collaboration aussi avec les autorités qui nous ont facilité aussi les démarches de visa pour nos observateurs. Et c'est vrai qu'il y a eu de la part des autorités cette volonté constante d'avoir des observateurs. Nous n'avons pas non plus été entravés dans l'accès à un certain nombre d'informations, ce qui est appréciable. Ensuite, on peut noter que la commission électorale et la Cour d'ailleurs, hein, les deux institutions ont traité avec une grande inclusivité l'inscription des candidats. Ça, c'était un élément notable. Le fait aussi que la CENI a publié les résultats bureau de vote par bureau de vote, comme l'exigeait la loi depuis un amendement de 2022. C'était un élément positif, même s'il manquait certaines données sur le site internet, hein, comme le nombre d'électeurs par bureau de vote et le taux de participation. Et puis, je pense à un engagement, un engouement de la part de toutes les parties prenantes et des électeurs dans le processus électoral. Donc voilà à peu près ce que l'on peut dire sur les éléments positifs.
Merci, monsieur Nicolas Tendin.
Merci à vous.
Et c'est par ici que nous mettons un terme à ce journal mis en onde par Debs Vita, supervisé et coordonné par Jude Bilan Dankoumar. Patience Ngalou Lambombo vous l'a présenté. Merci de l'avoir suivi.